Oui, parce qu'à 16h52, c'est déjà l'heure de recevoir, comme tous les mercredis, l'avenir de la recherche scientifique. Chaque semaine, un doctorant vient nous présenter ses travaux de recherche ici en studio pendant 4 minutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Ronan Mounier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en préparation de thèse à Paris-Est, en partenariat avec les groupes de recherche clinique et investigation, modélisation et simulation autour du patient en état critique et anesthésie et réanimation impact. C'est à vous, bienvenue à la recherche Montre en main.
Bonjour, je salue les auditeurs ainsi que les invités et vous-même Nicolas Martin. Je vous remercie pour l'invitation extrêmement flatteuse à venir parler de mes projets de recherche sur France Culture. Je travaille sous la direction de Gilles Donneur, du professeur Gilles Donneur, donc à l'université Paris-Est de Créteil. Et je travaille aussi en association avec le professeur Palfi dont on vient de parler. Voilà, donc le sens profond de ma recherche est d'approcher ce qui aboutit à la maladie infectieuse. Question qui peut paraître triviale et résolue depuis longtemps, mais les vérités scientifiques évoluent au fil des nouvelles découvertes. Or, deux grands changements sont apparus. Le caractère globalement bénéfique des microbes, ainsi que le biofilm. Le monde vivant, les microbes qui nous entourent, a été essentiellement découvert et vu dans le prisme de la maladie infectieuse, nous laissant une trace pestilentielle dans notre mémoire commune. Or, nous savons aujourd'hui à quel point les microbes qui nous entourent sont avant tout bénéfiques pour nous. Nous avons coévolué depuis des millions d'années, aboutissant à un état d'équilibre en perpétuelle évolution et où chacun y trouve son compte. Cet équilibre comprend un pacte de non-agression et de protection mutuelle. Ainsi, il faudrait plutôt voir le microbiote, comme l'ensemble des microbes faisant partie de nous, comme un vieux compagnon indispensable. À bien y regarder, on tombe rarement malade à cause de notre microbiote. Certes, il y a bien des microbes qui sont vraiment pathogènes pour l'homme, le paludisme, l'anthrax, Ebola, mais ils sont insignifiants face à l'immensité du monde vivant. Pour le reste, ceux dont nous parlerons, ce sont les commensaux qui vivent à la surface de nos épithéliums. Ils ne sont pas ou peu pathogènes. On peut prendre pour exemple le Staphylococcus aureus que tout le monde connaît, qui a un portage sain dans la population de 20% et qui, à l'occasion d'une rupture d'équilibre, une dysbiose, peut créer des infections graves. L'autre concept important, c'est le biofilm, qui correspond au mode de vie préférentiel des microbes, agglutinés dans une matrice. Sa présence, elle dépend beaucoup de la présence de matériel étranger. Or, comme on vient de le dire, l'homme bionique se profile à l'horizon et les implants intéressent tous les organes, particulièrement dans mon domaine de travail clinique, la neuro-réanimation, où nous utilisons des capteurs de pression du cerveau, des électrodes pour stimuler le cerveau, la moelle, des valves pour dériver le liquide céphalo-rachidien. Ces corps étrangers peuvent être permanents ou non, ils peuvent être profonds ou transdermiques. Pour les matériaux transdermiques, leur colonisation semble a priori obligatoire puisque les microbes sont partout. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. On est parti d'une observation d'un des tuyaux implantés dans le cerveau qui sert à dériver le liquide céphalo-rachidien à l'extérieur. Et nous avions montré que la présence de certains microbes à potentiel pathogène au point d'insertion cutanée augmentait fortement le risque d'infection. Là, rien de nouveau, vous allez me dire. Cependant, les patients qui n'avaient pas ces microbes sur la peau et qui ne présentaient pas d'infection n'avaient pas une peau stérile pour autant. On y retrouvait les germes, mais les germes du microbiote cutané normal. On pouvait penser alors que le pacte de non-agression avec eux était efficace et qu'ils empêchaient les microbes plus douteux de venir s'installer sur notre peau. On peut penser qu'une rupture d'équilibre suit l'utilisation par exemple d'antibiotiques qui agissent sans discernement sur le monde microbien. On a donc voulu caractériser l'importance de la colonisation quantitativement et qualitativement en étudiant deux types de matériel transdermique positionnés presque au même endroit, les deux parties du cerveau passent par la peau. Le premier étude dont je venais de vous parler qui draine le liquide céphalo-rachidien, le deuxième est un capteur en fibre optique qui mesure les pressions. Le premier est connu pour son taux d'infection élevé et le deuxième pour ne jamais s'infecter. Or, nous avons pu établir avec surprise que les deux types de cathéters étaient hautement colonisés. Où se situe la différence en termes d'infection? On est actuellement en train d'étudier, avec des nouvelles techniques très sensibles, la composition de ces biofilms afin d'essayer de dégager des qualités d'un biofilm protecteur contre les infections qui empêcheraient les microbes potentiellement agressifs de se fixer et de se développer. L'idée étant de respecter notre environnement et notre microbiote afin d'améliorer notre collaboration contre les microbes potentiellement pathogènes. À terme, on peut imaginer des vrais biomatériaux vivants offrant une protection évolutive qui permettrait de diminuer le taux d'infection ainsi que le recours aux antibiotiques.